Polysécur, épisode spécial, je suis accompagné d'Alexandre.
Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver lors de ces podcasts.
Absolument, et cette fois-ci, nous allons parler des mythes et réalités en info nuagique, puisqu'on vit dans un univers où les perceptions, je crois, ne rejoignent pas la réalité, et dans certains cas, ont causé certains malheurs, on l'a vu dans le passé, et probablement en causé d'autres si les gens ne réalignent pas leur perception d'un service info nuagique par rapport à ce qu'il est capable réellement de nous offrir.
Alors Nicolas, Loïc, on va se lister, j'ai listé un certain nombre de questions, de croyances, de choses comme ça, mais avant je voudrais faire un disclaimer. J'aime l'info nuagique. I love le cloud. Donc, ne prenez pas mal tout ce que je pourrais dire. Je trouve que c'est un service qui est fabuleux, super intéressant. Par contre, il peut être très dangereux si on n'est pas au courant exactement de tout ce qu'on va dire. Donc soyez bien attentifs sur ce qu'on va dire parce que même si c'est très beau, il faut être quand même très très sûr de ce où on va et comment faut faire les choses. Maintenant que le disclaimer est passé, que vous savez tous que j'aime l'info nuagique, I love the cloud, je vais commencer par la première croyance. Le fournisseur est responsable de tout. Nicolas Loïc,
Non, ça fait, faut bien lire les clauses parce que la limite de responsabilité, elle est pour eux très claire, pour les utilisateurs moins claire, et ça dépend toujours de la nature du service qui est utilisé. Puis c'est là où les frontières changent selon la nature des services. Puis là où ça vient mélanger les gens encore plus, ça, on va prendre parce qu'il y a du moins au Québec, puis bon, ce qui s'est passé généralement aussi dans le monde, Microsoft a vendu énormément Office 365. C'est une bonne chose parce que ça l'a aidé beaucoup dans beaucoup d'entreprises. Cependant, pour pas mélanger le niveau de service offert avec Office 365 avec le niveau de service qui est offert avec les autres composants que Microsoft, dans le fond, dans Azure, tout le volet Azure n'a pas le même niveau par défaut de disponibilité ou de sécurité qui est associée. Fait que ces nuances-là sont très importantes et très bien maîtriser cette frontière-là parce qu'elle est variable. Puis aussi, on a toujours le cas d'OVH où les gens n'avaient pas bien lu leur contrat, n'avaient pas bien maîtrisé la frontière qu'il y avait entre les deux et se retrouvaient avec l'effet de surprise quand un avarie s'est passé. C'est inévitable qu'un avarie va se passer. Ils en ont payé les frais parce qu'ils avaient mal lu cette séparation de responsabilité là.
Et ça, c'est flagrant. Hein. Moi, chez tous les clients que je vais, et puis j'en ai un gros dernièrement, quand je lui ai parlé justement, à faire un état des lieux sur l'info nuagique, hein, puis que je lui ai dit, ouais, mais vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ça. Il me dit, mais on a payé, on doit tout avoir. Ben, oui, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce que vous achetez un service que votre fournisseur est complètement responsable de tout. Non, non, il vous offre des options, il vous offre des choses. Et si vous payez le gros prix, c'est à vous de cocher sur les bons trucs, etc. Derrière ça, lui, il n'est pas responsable de tout. C'est à vous de faire le choix. Donc oui, et puis les deux exemples que tu as donnés, dont OVH, il y a eu des réveils difficiles pour plusieurs milliers d'entrepreneurs là quand OVH est arrivé et qui sont aperçus que ils faisaient pas de sauvegarde sur leur environnement, que c'était pas redondant, contrairement à ce qu'on pouvait penser dans l'info nuagique, que c'était tout redondant, machin, etc. Non. Le réveil a été difficile pour pas mal. Donc, soyez bien assurés à la réponse, le fournisseur est responsable de tout. C'est faux. Donc, soyez bien attentifs par rapport à ça. Vous avez votre responsabilité à plusieurs niveaux. Et puis, vous avez intérêt à bien regarder parce que sinon, pour vous aussi, le réveil risque d'être dur. Donc, info nuagique, très intéressant, mais soyez aussi responsable par rapport à ce que vous mettez en place. Deuxième croyance. Le fournisseur s'adapte à vos besoins. J'adore celle-là, surtout pour les gros clients.
Celle-là me fait tellement rire quand je l'entends. Puis, on parle de clients qui se croient de grande taille et je crois qu'ils ne mesurent pas à quel point ils sont de petite taille par rapport à la réalité de l'info nuagique. Puis même de plus budgétaire, quand on parle de clients réels de l'info nuagique qui sont d'ampleur, Netflix est un client d'ampleur et qui a probablement la capacité de faire bouger, je pense qu'ils sont sur Amazon, eux autres. Donc, ils sont capables de faire bouger Amazon pour leurs besoins parce qu'ils ont l'ampleur. Donc, la quantité d'argent qu'ils donnent à Amazon est tellement grande qu'ils sont capables de faire bouger. Les plus petits, quand on est probablement à moins de 10 millions par année d'infos nuagiques, On est une goutte d'eau dans l'océan des budgets qui sont faits, puis ils vont littéralement ils vont faire oui. C'est ça aussi qui est traite, puis ces clients-là ça donne leur impression qu'ils sont importants. Mais les ceux qui représentent les deux sont la relation client, ils vont juste dire oui, mais la réalité, c'est ils mettent les classes dans la filière, la demande ou les demandes qui sont faites. Puis ben, peut-être un jour ça va être traité ou peut-être un jour ça va arriver, mais c'est pas dans les priorités du fournisseur. C'est une question d'ampleur, c'est normal.
C'est ça. Et il y a 8 milliards d'habitants sur cette planète. Si le fournisseur devait s'adapter 8 milliards de fois, il s'en sortirait pas. Donc c'est clair que... Et puis, tu as amené la notion de prix, là. Pour les gouvernements, c'est aussi pareil. Quand vous avez une entreprise qui a le PIB, qui a une valeur commerciale d'une entreprise qui a le PIB d'un pays, dites-vous bien que si, comme tu le dis, 10 millions, si vous consommez à peine 10 millions, là, vous n'êtes même pas audible. Donc, oubliez ça, le fournisseur ne s'adaptera jamais pour vous. Et c'est un changement de paradigme par rapport à ce que l'on avait avant, et qu'on travaillait avec des fournisseurs qui étaient de taille un petit peu plus humaine, bah là, vous aviez peut-être un levier pour le faire évoluer, pour le faire adapter, pour faire en sorte que le logiciel qu'il vous donnait, il l'adaptait par rapport à votre saveur et à votre couleur. C'est terminé. Pour les fournisseurs infonuagiques, les leaders de ce monde-là, Microsoft, Amazon, Google, oubliez si vous voulez les faire évoluer. Vous pouvez peut-être faire évoluer un fournisseur infonuagique qui est au fond de sa cave, hein, mais dans ce cas-là, à mon avis, vous avez des petits problèmes de sécurité avec ce fournisseur-là. C'est un choix, c'est une question de choix. Maintenant, les produits... Vas-y, excuse-moi, je te laisse intervenir.
Oui, c'est ça. Je veux dire, puis on en connaît tous ces fournisseurs de petite taille-là, mais genre en plus, je pense que je vais inventer, ils ne sont pas certifiés non plus. Il y a un paquet d'autres soucis qui sont associés à le fait d'utiliser ça, puis... Je peux pas nécessairement, pour les clients d'une bonne taille, je peux pas recommander l'usage de ces services-là parce que ça nous mène à une incertitude qui est trop grande.
Ouais, clairement. Donc, le fournisseur s'adapte à nos besoins, la réponse est faux. Donc, les chasseurs de licornes, je vous invite d'aller arrêter de chasser des licornes et de retirer vos lunettes roses. Ne croyez pas que vous pourrez faire plier un grand de ce monde. Troisième croyance, le nuage est plus sûr. Nicolas Loïc, qu'est-ce que tu en penses?
Ben oui et non. Le nuage est plus sûr dans sa zone de responsabilité. Et il ne l'est pas hors de sa zone de responsabilité. Ça veut dire essentiellement que là, il y a des éléments qu'on n'a plus à gérer en termes de sécurité. C'est-à-dire que tout le volet infrastructure n'est plus à notre charge. Donc effectivement, c'est plus sécuritaire. On a moins d'efforts à mettre de ce côté-là. Et là, ça arrête la responsabilité du fournisseur. On revient encore à la responsabilité. C'est la ligne est très claire. Et ça dépend. Soit on a la responsabilité de configurer les services. On va dans les services totalement gérer les volets SaaS, comme O365, par exemple, qui est le meilleur exemple, ou Google Workspace. Nous sommes responsables de la configuration. Donc, si on n'a pas activé le MFA, si on n'a pas mis des politiques de mot de passe, si on n'a pas ces affaires-là dans notre environnement, non, Google ne fera pas rien. Microsoft a forcé le MFA, par exemple, par défaut maintenant, justement pour éviter que les clients se tirent dans le pied parce qu'ils sont méconnaissants des mesures de sécurité. Mais au-delà de ça, leur responsabilité s'arrête là. Puis ils disent clairement aussi, là, puis c'est pas leur problème de gérer notre environnement parce qu'ils nous prêtent un espace. Puis il faut vraiment le voir comme dans l'univers physique, ils nous prêtent c'est pour ça que le terme de Microsoft, le tenant, est intéressant parce qu'il nous prête un condo, il nous prête un logement. Puis ce logement-là, il nous le prête, c'est ça, mais on est responsable de l'intérieur. Si on ne verrouille pas la porte de notre logement, ben c'est notre problème. C'est pas le propriétaire d'édifice qui va être responsable. Donc, dans ce cas-ci, Microsoft qui va être responsable de ça. Fait que c'est vraiment, faut le voir dans cet environnement-là. Si on brise des murs, si on laisse entrer des malveillants, puis ils brisent tout, ils volent les choses. C'est dans notre espace locatif à nous autres qui nous appartient. Et on a l'entière responsabilité. C'est pour ça que l'image du logement est probablement le plus parlant. Parce que là, on est capable de vraiment comprendre la séparation de responsabilité dans le côté de la sécurité. Fait que verrouillez vos portes, c'est important. Et vos fenêtres aussi.
Ouais, j'aime bien ton image du logement. Je pense que je vais la reprendre. Je trouve qu'elle est vraiment très très intéressante. Maintenant, quand tu arrives dans ce logement, dans ce condo là, il y a aussi les fluides électriques, l'eau, etc. Là, et là-dessus, c'est pas plus sûr pour que vous soyez dans la faune nuagique, parce que des pelleteuses qui arrachent des câbles, ça se fait tous les jours à travers la planète. Hein, et c'est pas parce que vous êtes dans la faune nuagique que ça va être plus sûr. Non, non, c'est pas parce que vous allez à un câble qui va dans la faune nuagique que celui-ci va être indestructible. Non, non, c'est pas possible. C'est destructible par accueil. Donc tout ce qui va être accès vers l'info nuagique, hein, ça sera pas plus sûr. Vous aurez les mêmes problèmes par rapport à ça. Par contre, en effet, je te rejoins complètement sur le fait que le service, oui, c'est plus sûr parce qu'il y a toute une notion de garantie autour de ça, de SLA, etc. Donc, un petit vrai-faux là-dessus. Tadam ! Attention, question suivante. Le nuage est redondant. Tadadadam !
Non. Oui. Non. Mais oui, mais non. Mais ça dépend. Puis on fait juste regarder les pannes de AWS, pardon, sont un très bel exemple de ça. Les pannes sont faites, ont affecté une région, par exemple, si c'est arrivé une ou deux fois de mémoire. Les services qui ne s'étaient pas planifiés une redondance sont souffert de cette panne-là parce qu'ils n'avaient pas eux-mêmes designé leur service. Puis c'est là aussi, revient sur le fait que notre responsabilité de louer les systèmes qui nous permettent ça, c'est qu'on n'a pas déchargé au nuage cet élément. À l'exception de quelques services, les services plus gérés comme O365 qui est toujours ou Google Workspace sont des très bons exemples qui, eux, sont faits de façon que, comme c'est clé en main, le fournisseur s'en occupe. Mais c'est parce que l'illusion aussi, puis c'est encore là, la perception des gens, comme dans O365, c'est inclus. Ils pensent que là, c'est dans le restant. Non, ça ne l'est pas. C'est pas qu'il faut faire des sauvegardes. C'est là pour ça qu'il faut prévoir des architectures de relève avec des sites distants ou des sites distribués de distribuer la charge. Et c'est là où on amène dans du cloud native, c'est-à-dire vraiment un design ou une approche qui est adapté à l'info nuagique. Fait que c'est aussi le piège. On prend nos guinées de sur-site, on les envoie dans l'info nuagique tel quel et on pense que tout va gérer seul. Non, le reste, il faut repenser nos systèmes de façon à ce qu'ils soient capables d'opérer de façon redondante, de façon là en continu. Mais ça, c'est encore là, c'est notre responsabilité parce que c'est nos espaces locatifs qu'on a. Puis si on en a juste un puis il passe au feu, bien, on n'en a plus d'espace locatif. Puis tant pis, puis le fournisseur, ben lui, a fait best effort, puis il faudrait encore regarder les clauses contractuelles. Ils ont des limites de disponibilité, puis généralement, ils respectent assez bien. Sinon, ils remboursent, mais tu sais, généralement, c'est quelques dollars qu'ils vont rembourser pour la perte de disponibilité, parce que c'est comme ça.
Mmh. Et ça là-dessus, c'est très intéressant, hein, parce que l'histoire de la redondance est... En effet, sur 365, c'est autogéré, machin, etc. On n'a rien à s'occuper là-dedans. Là. Mais il n'empêche que pour tout le reste, hein, si tu ne sélectionnes pas comme quoi tu veux une redondance, hein, de tes applications, etc., bah, tu ne l'as pas. Ce n'est pas parce que l'infrastructure qui est derrière est redondante, que le fournisseur est redondant et qu'il a tous les moyens pour être redondant, que toi-même, tu es redondant. C'est son infrastructure qui est redondante. Et c'est d'ailleurs ce qu'il vend. Quand il vend en fait la redondance de l'info nuagique, il vend la redondance de son infrastructure, pas des choix que tu fais. Donc c'est clair que si tu ne choisis pas, si tu ne valides pas comme quoi tu veux une redondance, bah, c'est comme si tu avais en effet un seul appartement, on va continuer sur celle-là, et puis que ton appartement passe au feu, et puis bah, voilà, tu te retrouves dans la rue, et puis tu n'as pas de deuxième appartement. Mais si tu avais sélectionné un deuxième appartement dans la barre d'immeuble qui était à côté, eh ben, tu aurais la possibilité d'avoir justement un repli là-dessus. Donc très très important cette notion de redondance, hein, c'est le fournisseur qui est redondant, mais si tu ne sélectionnes pas ta redondance, tu ne seras pas redondant. Donc très très attentif par rapport à ça. Et l'autre chose, hein, c'est en effet tout ce qui est SaaS, virgule PaaS, virgule IaaS, etc. Le SaaS, généralement, il s'organise pour que ce soit redondant, puisque de toute façon, c'est à eux de s'occuper de tout ça. Ils te fournissent un service avec un niveau de service, de tolérance aux pannes, de redondance, etc. Tout ce que tu veux avec ça qui te permet de pas avoir de rupture de service ou alors d'avoir quelque chose, mais très, très court et dont tu ne t'occupes pas. Mais tout le reste, hein, faut que tu te débrouilles, faut que tu te démerdes. Donc, ça veut dire que si tu bascules en vrac tout ce que tu avais dans ton centre informatique chez le fournisseur infonuagique, comme à peu près 90%, voire 99% des clients que je côtoie, où on va dire, bah, de toute façon, l'infonuagique, c'est magique, donc ils vont s'occuper de tout, tu risques de tomber de bien, bien haut quand ils vont avoir un problème. regarde un petit peu ce qui s'est passé chez OVH, il y a aussi des sites, des data centers chez Google qui ont brûlé. Donc, c'est des choses qui arrivent. En Angleterre, il y a des sites qui ont arrêté. Donc, ton service s'est arrêté parce que tu n'avais pas sélectionné la redondance inter-site, voire inter-région. C'est ballot parce que ça va t'entraîner une rupture de service. Et en effet, ils vont peut-être te rembourser, allez, quelques dollars. Mais quand tu vas calculer ta rupture de service, que ça t'a coûté versus ce qu'ils vont te rembourser, Kleenex va monter en hausse en bourse. Donc, nuages redondants, ça rejoint votre premier point. Soyez responsable, ouvrez les yeux, arrêtez de croire aux licornes. Donc, cliquez pour avoir de la redondance. Cliquez, 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 lisez vos contrats, ça vous évitera de pleurer après. Ah, celle-là, le nuage redondant, qu'est-ce que j'adore ça. 90 voire 99% des clients croient que ce soit totalement redondant pour eux. Eh ben non. Tous les fournisseurs sont certifiés. Tous sans exception, sont certifiés. T'en penses quoi, toi?
Non, puis j'avais déjà mentionné précédemment, les plus petits ne le sont pas parce que c'est dispendieux, cette certification-là. Les majeurs vont avoir probablement la majorité des certifications qui existent, des certifications mondiales qui sont largement reconnues et des certifications locales qui, dans certains pays, sont des exigences particulières. C'est ça, on va nommer les États-Unis comme étant un nid de certifications particulières, mais il y en a exactement en Europe aussi, il y en a en Allemagne, il y en a dans d'autres pays qui ont leurs certifications spécifiques, qui permettent justement d'évaluer selon les critères qui leur sont propres les éléments de sécurité. Ça, les gros le font, mais c'est pas assez dispendieux, ça ne se fait pas partout. Fait que là, on commence à descendre dans les plus petits, on va voir que le nombre de certifications diminue. Puis en plus, on va descendre, puis jusqu'à ne pas avoir de certification, où on va finalement avoir un espace de colocation classique qui s'est juste reconverti, qui a renommé ces choses, où dans le fond, lui, à part avoir des gicleurs, puis des caméras, puis des racks barrés, c'est à peu près tout. Puis il n'y a jamais personne qui a vérifié, qui a assuré qu'un tiers parti de qui garantit ses dires. Puis c'est ça que ça sert aussi de certification, c'est qu'un tiers parti vient justement valider que le fournisseur exécute réellement ce qu'il mentionne.
Là aussi, juste en termes de certification, on peut lire ISO 22017, le CSA Star, le SecNum Cloud ou le Cloud Confidence. Donc, c'est quelques certifications, il y en a d'autres par rapport à ça. Sur les certifications, c'est clair qu'en fonction du fournisseur et puis de la taille du fournisseur, bah, il va être certifié ou pas certifié par rapport à ces certifications. C'est clair que quand on veut tirer sur l'économie, là, oublier les certifications. J'ai un des clients là, ils sont chez un fournisseur où ils étaient, j'ai plus de relation avec ce client là, mais chez un fournisseur qui n'était pas certifié, qui était dans un centre commercial et qui n'avait pas de génératrice. Donc par rapport à ça, un fournisseur cloud comme ça, je vous invite à arrêter tout de suite le contrat et puis aller dans quelque chose de plus sérieux. Parce que ça peut arriver que le fournisseur cloud bas de gamme, là, il passe au feu et puis que là, vous allez encore augmenter les actions de Kleenex, la valorisation de Kleenex. Donc, oui. Attention par rapport à ça, là, quand vous cherchez un fournisseur, ne jouez pas sur les coûts, là. Faites le nécessaire pour qu'il soit certifié.
Ouais, puis je vais rajouter aussi, là, il y a deux niveaux, puis c'est intéressant de le voir, parce que eux, il y a ces petits fournisseurs-là qui existent, qui ont justement, je trouve très drôle, ça de commercial, j'avais jamais entendu, mais je l'ai déjà vu d'autres, où, genre, on m'a dit, ouais, les mesures de repli, c'est, on a une génératrice dans le cabanon, on dit, OK, cabanon, ça, tu serais à la maison, ouais, c'est ça, on est en télétravail, tout ça, puis machin, on dit, OK, bon, c'est particulier comme idée, ça de un. Cela étant dit, c'est aussi faut être vigilant aux services qu'utilisent les services. C'est-à-dire qu'on va consommer un service semi-géré, on va dire, mais qui en dessous s'appuie sur un service des grands cloudeurs en général, mais aussi qui peut s'appuyer sur des plus petits services qui, justement, peuvent être problématiques. Fait qu'il faut remonter la chaîne au complet pour comprendre le service qu'on consomme, où il s'appuie, parce que c'est pas rare qu'ils vont utiliser un grand long, Netflix, mais Netflix, c'est pas grave, ça tombe en panne, on n'a juste pas d'émission de télévision. C'est pas pour nos business d'une très grande importance, mais si nos business vivent sur un service de cette pas de nature de Netflix, mais qui s'appuie justement sur un autre entour, un AWS. Puis AWS tombe en panne, mais là, il faut connaître la chaîne pour prendre la bonne décision. Et aussi de savoir si le fournisseur lui-même a réfléchi à ce qu'on pensait de redondance tantôt. Ben, réfléchir à sa redondance, est-ce qu'elle est bien déployée? Elle est correcte parce qu'on présume beaucoup. Il faut faire très attention. Il ne faut jamais prendre pour acquis rien parce que les designs nous reviennent toujours nous mordre s'il y a une erreur dans le design d'un fournisseur qu'on consomme. Fait que là, ça revient toujours un peu à notre charge. Malheureusement, on n'est pas capable de déléguer ce degré de choses-là, même si tout bien des gens aimeraient déléguer ce niveau de responsabilité-là facilement.
Tu m'étonnes que par rapport à ça, en effet, il faut être vraiment attentif par rapport à ça. Et je m'emballe. Allez, le suivant, l'info nuagique, hein, c'est abordable, c'est pas cher, c'est vraiment abordable.
Oui, mais non. Encore là, on est toujours dans un gris. Ça dépend de la nature des services qu'on prend. Puis plus on est dans un service géré, on va prendre nos 365, plus effectivement, ça revient moins cher à l'opérer comme ça, puisque toute la quantité d'infrastructures et de personnel que ça prend pour gérer ça, généralement, on tombe dans un contexte d'économie. Et c'est très intéressant puisqu'on est dans un niveau de mutualisation très élevé. C'est là où les cladards font leur argent. C'est plus ils mutualisent, plus ils font de l'argent, plus ils sont capables, dans le fond, de repasser ces économies-là à leurs clients. Moins on est en mutualisation, moins il y a d'économies à faire. Donc, plus on descend vers du IaaS, par exemple, moins il y a d'économies à faire. Puis si on prend juste du tel quel, on prend notre data center et on l'envoie dans l'info nuagique, on va payer plus cher parce qu'il y a un overhead qu'on doit payer sur le fait que le cloudeur est là, doit nous charger de l'argent supplémentaire. Et c'est aussi le signe que faut réfléchir notre façon de fonctionner parce que l'avantage du nuage, c'est la mutualisation. Et si on ouvre des machines à temps plein puis tout le temps dans le prélard, bien effectivement, on n'a pas d'avantage de mutualisation parce qu'on consomme une ressource de façon permanente. C'est là qu'il faut réfléchir la façon de fonctionner. Donc, nos fluctuations de consommation de la puissance informatique doit être modulé selon ce qu'on a de besoin réellement. Et c'est là où les économies embarquent parce que quand la puissance excédentaire qu'on n'utilise pas, elle est remise ailleurs. Donc, on ne la paye pas. Pour le cloudeur, c'est avantageux. Fait qu'il faut toujours réfléchir à mutualisation. Puis, ça ramène la naissance même de AWS. Pourquoi AWS est né? Parce que Amazon, en tant que fournisseur de commerce et de livres, principalement, il y a très longtemps, devait planifier des infrastructures suffisamment forte pour accepter la charge pendant les périodes de pointe, comme le temps des fêtes, par exemple. Mais la plupart de l'année, ne faisait rien avec ces infrastructures-là qui dormaient parce qu'il y avait de la capacité excédentaire. Donc, il y a des gens qui ont eu l'idée de revendre cette capacité excédentaire, donc de mutualiser leurs infrastructures, dont là, AWS est né. Donc, cette idée-là de mutualisation, elle est l'idée fondatrice du nuage. Donc, faut toujours y revenir. Si on ne mutualise pas nos services, on ne design pas nos services pour être mutualisables ou en termes de consommation de ressources informatiques, ça ne vaut pas la peine d'aller en info nuagique parce que c'est là où est l'avantage. Puis si on n'utilise pas cet avantage-là, on ne va pas le chercher. Mais ça, très, très proche de la machine, plus on monte, plus à ce moment-là, on est capable d'utiliser parce que le fournisseur va mutualiser naturellement quand on va chercher, disons, on va chercher des grands services gérés comme Sentinel chez Azure, chez Chronicle, chez Google, par exemple, ou Elastic chez AWS, qui sont des choses de journalisation, qui, eux, sont des éléments qui sont beaucoup plus mutualisés. Donc, on est capable de bénéficier des rabais associés que si on le faisait nous-mêmes, puisque nous, on n'a pas cette capacité-là de mutualiser ces infrastructures-là. Fait que quand elles sont sous-utilisées, elles sont juste perdues quand on le regarde de façon financière.
C'est très important de bien le comprendre, ça, en effet. Les économies d'échelle qu'on peut faire sur ce genre de choses-là. tout ce qui est environnement de non-production, de pré-production, des environnements qui peuvent être des environnements de non-production, c'est ça, et puis de développement qui peuvent être arrêtés, dont on peut se permettre de les arrêter pendant le week-end, etc. Là-dessus, on va faire beaucoup d'économies. Tout ce qui est environnement de production, là, en termes d'économie, je suis pas sûr qu'on va en faire beaucoup par rapport à ça. Donc là aussi, faut bien regarder qu'est-ce que on va migrer dans l'info nuagique. Et il y a un autre volet qui n'est pas forcément perçu. On se contente beaucoup sur le coût du hardware, du matériel, etc. Mais il y a aussi le coût de la donnée. Alors la donnée, quand on la stocke comme ça, il semble que ce ne soit pas très très cher. Par contre, du moment qu'on veut la sortir, pour par exemple, imaginons se sécuriser quand même nos données, nos données vitales, le sang qui coule dans nos veines. Et puis on voudrait avoir une copie de ces données-là sur notre infrastructure chez nous, pour être sûr que si le fournisseur infonéagique pour une raison X ou Y n'était plus disponible, qu'on puisse quand même avoir nos données. Et ben là, hélas, ça va coûter un bras. C'est ballot. Mais c'est comme ça, ça s'appelle du business. Et donc, par rapport à ça, il faut bien penser que quand vous passez dans l'info nuagique, que vous mettez vos systèmes, que vous mettez vos données, vous perdez la souveraineté, en fait, de tout ça. Sauf si vous décidez d'avoir une réflexion en bon père de famille en disant « si mon fournisseur infonuagique est indisponible, il faut quand même que moi je puisse partir par rapport à ça ». Et là, il va falloir regarder différentes stratégies. Donc, stratégie de récupérer ces données chez soi, stratégie de pouvoir dupliquer les données chez un autre fournisseur, si vous êtes chez Microsoft, chez Amazon, vice-versa, etc., ou chez Google. Par contre, en effet, quand on va faire des flux de données comme ça, qu'on va sortir de chez Microsoft pour aller chez Amazon, eh ben, va y avoir un coût qui va être payé à la donnée qui sort. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout budgétisé. On va juste consommer, enfin, vu juste imaginer, on va calculer le coût CPU, le coût stockage de données, mais pas, en fait, la transmission de données. Et quand on commence à avoir des clients qui se disent, ah, bah oui, il faudrait quand même qu'on garde notre souveraineté, ben ils reviennent vite en arrière en disant la souveraineté, je crois que je vais m'en passer, ça me coûte trop cher. Et c'est là où justement le drame arrive, hein, c'est que vous perdez votre entreprise à ce moment-là. C'est-à-dire que vous donnez les clés de votre maison à une personne qui pour le moment est super bien avec vous, mais qui demain, pour des raisons X ou Y, peut devenir très désagréable, et dans ce cas-là vous n'avez plus accès à votre maison. Donc attention par rapport à ça.
Oui, je trouve ça très intéressant, tu soulèves les coûts, puis c'est un point qui est très important justement parce qu'on parle du volet plus financier, tout le volet FinOps. Faut être très prudent parce que chaque fournisseur a des grilles tarifaires différentes et le diable se cache dans les détails. Ils font pas leur argent de la même façon. Fait que, puis là, un des exemples, c'est OVH, par exemple, ne charge pas à la sortie. Ça en est un, c'est un cas exceptionnel, mais les autres ne chargent pas à la sortie. Mais ils chargent ailleurs, ils chargent d'autres choses. Fait qu'il faut vraiment être vigilant où ils chargent, puis prendre le modèle qui nous convient davantage justement pour répondre à ce genre de choses-là. Il y a plein de subtilités quand les données se déplacent en centre de données d'un fournisseur. Des fois, c'est chargé, des fois, c'est pas chargé. C'est chargé dans certaines circonstances. Il faut savoir les circonstances, puis il y a pas d'uniformité chez aucun fournisseur. De un, quels sont les différents, les choses, même les paliers de gratuité sont pas similaires. Les services sont chargés, les services ne sont pas chargés. Donc, vraiment de bien maîtriser tout le volet FinOps qui est associé à ça, parce que si on ne le maîtrise pas, c'est là les surprises financières arrivent et c'est là généralement que les coûts explosent et dépassent largement les économies qui avaient été anticipées pour le déplacement en info nuagique. Fait que c'est déjà aller surveiller ce genre de choses-là. Il existe. Puis en plus, si vous êtes multiclasse, c'est encore plus maudit parce que vous avez vous devez vivre dans des environnements très distincts. Il existe des services et des solutions qui permettent justement de surveiller ces éléments-là pour vous et de procurez-vous ce genre de choses-là parce que ça va financièrement vous éviter des surprises. Des fois de doubler dans choses. J'ai vu des cas, les machines ont été oubliées pour le week-end. Ils sont revenus une facture de plusieurs dizaines de milliers de dollars parce qu'ils ont oublié de fermer les serveurs le vendredi, et ainsi de suite. Parce que c'était budgété, puis c'est ça un autre problème de planifier la marge de manœuvre. Parce que vous budgétez trop serré, c'est sûr que vous allez tomber en dépassement quelque part parce qu'un, il va y avoir des erreurs, des surprises, et ainsi de suite, des choses que vous n'avez pas vues en amont, vous n'avez pas pu être capable de planifier. Fait que mettez-vous une bonne marge de manœuvre dans vos estimés budgétaires.
Et puis, pensez aussi à tout ce qui est sécurité autour de ça, reprise informatique. Parce que là, la reprise informatique, depuis que les gens basculent dans l'info nuagique, là, comment est-ce que ça prend le bord, là, pas à peu près. Donc, L'info nuagique, c'est abordable? Oui et non. Ça dépend comment est-ce que vous l'utilisez et comment vous budgétisez ça. Faites ça en bon père de famille et vous allez peut-être gagner de l'argent. Mais plus sûrement, vous allez en perdre. Ceci dit, soyez bien attentifs à comment est-ce que vous dépensez et pensez à votre souveraineté. Allez, une autre, je peux changer de fournisseur facilement.
Ça dépend à quoi. Ça, c'est la fameuse... celle-là m'amuse un peu, cette réflexion-là, à bien des égards, puis même pour la relève, aussi la redondance, et ainsi de suite, souveraineté des éléments comme ça. Moi, j'avais abordé, puis la place où il m'a fait le plus rire, c'est quand on parlait de O365, l'importance de la prise des backups de O365. Je dis oui, mais c'est quel est le modèle de reprise qui est défini avec ça? Puis on dit, ah oui, mais si Microsoft devient disponible, je veux qu'elle aille remonter mes systèmes. Fait que là, tu regardes, tu fais comme, ouais, non, on va remonter un O365 à côté, ton plan, il ne fonctionne pas. Fait que, t'sais, ça ne fonctionne pas exactement comme ça, parce que les logiciels, c'était comme ça quand c'était sur site aussi. Là, c'est sur ça cette illusion-là de « Ah oui, on va être capable de transférer. » Ben, tu n'étais pas plus capable quand tu étais sur site. Les logiciels qui étaient similaires, qui n'étaient pas justement mis comme ça. Fait que là, déjà, il faut aborder la vraie réflexion de la bonne façon. Il faut accepter d'avoir un certain seuil de dépendance avec le fournisseur dans lequel on prend. Puis plus on est dans un système géré, plus la dépendance va être grande, plus ça va être difficile de sortir nos données. Plus on descend, plus c'est facile parce que la dépendance à des services très précis est de moins en moins grande. Fait qu'on descend en PaaS ou on descend en IaaS, ben, la facilité de sortir est là. Cependant, sortie égale coût de sortie parce qu'ils vont nous demander de payer le coût. Fait qu'on a une pénalité à la sortie aussi en termes de qu'est-ce qu'on sort, le volume de données qu'on sort. Donc, il faut aussi l'anticiper, ce genre de choses-là, et dans le format. Sinon, on tourne dans les couches intermédiaires. Généralement, c'est pas trop difficile. Ça demande de le planifier. Il faut vraiment le planifier dans la chose. C'est pas juste, il va nous laisser sortir. OK, comment il va vous laisser sortir? Les coûts, ça, j'ai déjà mentionné. Le format que les fichiers vont sortir. Est-ce qu'on est capable de faire quelque chose? Et comment on peut les réutiliser pour les mettre ailleurs? Fait que tout ça doit être réfléchi correctement. Sinon, on va se retrouver avec l'illusion qu'on est capable de sortir les données comme on voudrait, même si c'est marqué dans les clauses contractuelles, même s'ils nous donnent des choses comme ça, peut-être que les données qui vont sortir ne seront pas utilisables. C'est peut-être là aussi l'enjeu dans lequel faut le mesurer. Puis même selon les différentes lois, entre autres le RGPD qui a commencé à amener ça, en tant que consommateur, je suis capable de sortir mes données. Oui, mais encore là, il y a des limites. Encore là, il faut savoir ce qu'on fait. Puis ce qu'on reçoit des fois, c'est dans un format qui est très peu consommable. Donc, c'est très, ça va exiger énormément de traitement pour l'utiliser puis le mettre dans un autre contexte. Fait qu'il y a beaucoup de réflexions à avoir autour de ça parce que c'est pas facile nécessairement, même si c'est toujours possible.
Et là, ça va rajouter justement sur le point qui était avant, hein, c'est abordable. Et c'est clair que si on réfléchit justement à quitter, là, le fait de quitter, tu le disais très justement, ça a un coût derrière par rapport à ça. En France, j'avais certains clients gouvernementaux qui font des appels d'offres. Dans tous les gouvernements, ça fonctionne pas mal comme ça. Il y a un appel d'offres, normalement, ça a une durée limitée. Donc, si vous allez chez un fournisseur X hein, pour 3 ans et puis que l'appel d'offres suivant, c'est le fournisseur Y qui gagne, ça veut dire qu'il va falloir que vous changiez de fournisseur puisque c'est les règles gouvernementales. Imaginez le coût qu'il va y avoir derrière ça, donc commencez à budgétiser vis-à-vis de ça. Donc, il y a tout un mécanisme à faire attention vis-à-vis de ça quand on va chez un fournisseur, sur la durée dans laquelle on va être, enfin ça c'est pour les appareils gouvernementaux, dans la durée dans laquelle on va être avec eux, et puis il va falloir penser au coût de sortie de ce fournisseur-là, et ça dans l'appel d'offres, dans les appels d'offres, il va bien falloir creuser beaucoup plus sur comment est-ce que je sors, quels sont les formats des fichiers, comment est-ce que je fais tout ça.
Ouais, j'ai arraché un petit élément parce que c'est des conversations que j'ai chez certains clients, entre autres. L'usage de ces services-là. Justement, puis on s'emprisonne ou faut faire attention de ne pas s'emprisonner comme organisation dans ces services-là parce que certains services, que si on étend un peu trop loin leur utilisation, par exemple, ou on le colle trop proche de nos processus métiers, peut nous causer des soucis de sortie, justement. Justement parce que on ne pourra pas facilement sortir et réutiliser ces éléments. Fait qu'il faut le réfléchir, surtout quand on tombe dans des contextes métiers. Ces processus-là ne doivent pas dépendre de systèmes qui sont plus complexes à la sortie. Il faut être plus capable de faire ça. Fait qu'il faut réfléchir comment on utilise les services justement pour pas être se rendre prisonnier soi-même d'une situation dans laquelle on voudrait potentiellement sortir plus tard. Donc, de mettre ses balises internes comme organisation pour limiter, dans certains cas, certains types d'utilisation de certains services justement pour pas se retrouver dans cette situation-là.
Voilà, alors sortir de son fournisseur, ça se prépare. Allez, une autre, le nuage est sécuritaire. Ouh là là, moi, si je vais dans le nuage, tout est sécuritaire là-dedans, il n'y a aucun problème. T'en penses quoi?
Absolument pas. On en a un peu, on l'a effleuré précédemment. On est encore dans la zone de responsabilité. C'est encore l'espèce de rêve où on délègue. C'est ça, on est comme dans une espèce de rêve qu'on vivait sur site. On avait les silver bullets là, qu'on achetait, les solutions magiques qui venaient tout régler. Mais l'info nuagique est un peu vue comme ça aussi, où les très hauts gestionnaires veulent acheter la solution. Puis en achetant la solution, ils n'auront plus jamais de problème. La réalité, c'est jamais comme ça. On l'a vu dans... Ce soir, on a fait dans les setups de crise qu'on fait. On le voit régulièrement. Que ces situations-là n'ont aucun lien. Est-ce que c'est sécuritaire? Oui, mais pas pour nous. On est encore responsable de verrouiller nos portes. On est encore responsable de s'assurer que tout ça. Fait que c'est encore cette illusion-là. Le degré de responsabilité est variable selon le type de service qu'on consomme. Mais il demeure qu'on a une certaine responsabilité. Dans certains cas où je vois peut-être plus maintenant, quand on tombe dans des contextes de Kubernetes ou de ce système qui est cloud native dans l'ensemble, ben là, on a la perception que parce qu'on a durci disons, l'infrastructure du fournisseur, on est dans une infrastructure gérée, on est capable de faire n'importe quoi, puis les applications qu'on déploie peuvent être moins sécuritaires. La réalité, c'est non. Parce qu'il demeure que même si les paliers inférieurs sont pris en charge par le fournisseur et sont, on pourrait qualifier sécuritaires ou pas, ou difficilement attaquables, il demeure que les paliers supérieurs, qui sont les nôtres, notre application, on est responsable de ça. Donc, si on se fait vider notre base de données, le fournisseur va dire, ben, t'avais juste à ça. Ou t'avais à déployer tes moyens ou tes moyens. Ils vont tous le dire. Ils ont chacun leur service de surveillance, cybersécurité. De ceux-ci, je les ai nommés précédemment, mais ceux-ci sont très bons. Donc, utilisez-les, ce seulement-là. Puis, c'est l'autre aspect aussi, la sécurité n'est pas gratuite. C'est un service qu'on rajoute par-dessus. Fait qu'on parlait un peu précédemment de FinOps, l'argent, ce qui est associé avec ça, les coûts, planifier les coûts. Il faut planifier les coûts de la sécurité qui sont associés, autant au niveau des outils qui sont mis à notre disposition que l'opération de la sécurité. Fait que c'est pas encore là, des systèmes autogérés sont plutôt rares. Il nous faut quand même des équipes qui sont capables d'opérer cette solution de sécurité-là. Ces éléments de sécurité-là, puis plus on rapture, on est plus petit, parce qu'on pense que parce qu'on est petit, on peut vivre, on est agile, puis tout. Non, il nous faut quand même l'accompagnement de gens spécialisés en sécurité pour justement soit les opérations comme ça, ou de s'assurer que notre design ou nos configurations sont à niveau. Même si le serveur, puis c'est peut-être les fournisseurs, puis c'est peut-être aussi ça, les gens se trompent, c'est que les fournisseurs donnent des recettes puis des éléments comme ça, mais c'est ça aussi, c'est pas sans faille parce qu'on est quand même responsable. Il y a ceux qui sont faits, disons, je connais plus ceux de Amazon puis de Azure, ou au 365 aussi également, qui offrent des scores puis des guides pour ça, mais si ceux-ci sont pas suivis, ben on a des problèmes. Puis ceux-ci vont changer dans le temps, donc faut surveiller ce qui se passe, faut les entretenir, faut maintenir ça en vie. Ça prend un peu d'effort d'entretien quand même.
Ouais, et puis on déporte en fait la responsabilité, ça c'est sûr. Mais en plus de ça, on rentre dans des environnements qui sont très changeants, très très scalables. Les produits, les façons de faire évoluent en fonction de ce que décide le fournisseur, ce qui fait que si on a des personnes internes qui sont spécialisées sur tel produit, bah il faut qu'ils suivent, donc il y a tout un aspect formation, etc. Et forcément on peut échapper des évolutions, on peut échapper des aspects sécuritaires par rapport à ça. Donc le nuage est-il sécuritaire? Oui et non. Ça va dépendre vraiment comment vous allez l'utiliser, quels sont les services que vous allez utiliser, quelles vont être les connaissances et les compétences des personnels que vous avez et comment est-ce que vous allez interagir par rapport à ça. Donc, soyez attentifs par rapport à ce point-là. Tiens, j'avais une question pendant que tu présentais ce que tu présentais. C'est si je suis un... un client et puis j'ai fait un développement d'une application et puis mon application est complètement pourrie. Et en fait, mon application est tellement pourrie que tous les hackers du monde se jettent dessus. Comme je suis hébergé chez un fournisseur, est-ce que ces cyberattaquants qui ont accédé à mon application pourraient se répandre sur les autres clients et foutre le bordel chez les autres clients parce qu'ils sont rentrés par ma porte? Et donc, ma responsabilité là-dedans, ça serait quoi?
Normalement, c'est suffisamment isolé pour que les attaquants ne puissent pas. Il y a eu quelques démonstrations qu'on est capable de passer d'un à l'autre. Je ne crois pas que ça a été testé, la responsabilité associée à ce genre de choses-là. Cependant, on vit dans nos environnements, donc qui est présumé, jusqu'à preuve du contraire, naturellement, que la responsabilité se limite à notre environnement. Puis j'ai vu des fournisseurs informatiques fermés. Des services qui étaient trop attaqués, justement parce qu'ils veulent pas avoir ça dans leurs infrastructures. Ils veulent pas non plus avoir la responsabilité puis avoir à mettre en péril leur modèle d'affaires qui est justement cette mutualisation-là. Normalement, qui est assez étanche, c'est eu, à part les quelques cas qui ont sorti dans les dernières années, mais qui sont très rares, il n'y a pas vraiment d'éléments qui permettent de passer d'un environnement client à un autre de façon à ce que ça se fasse. Somme toute, là. Fait que non, normalement, non, mais si notre application est tellement pourrie, le fournisseur va fermer notre compte. Dans tous les cas, ils veulent pas avoir quelque chose de pourri chez soi. Fait que c'est un peu ce que je relate aussi à mes clients qui envisagent d'aller en info nuagique. Mettez vos infrastructures en droit parce que si c'est brisé, ça se peut qu'ils ferment vos services de façon inopinée. Ça se peut qu'ils vous empêchent d'aller plus loin dans ces choses-là parce qu'ils veulent pas porter la responsabilité d'avoir des intrus. Puis en même temps, pour leur image, parce que c'est un des problèmes, disons, on va dire, il y a une panne chez Netflix, puis c'est à cause de AWS, bien, l'email, ça retombe sur AWS. Donc, à ce moment-là, AWS va faire l'effort que Netflix ne nuise pas à son image. Fait que le fournisseur va se débarrasser des clients ou des services qui ont un potentiel de nuire à leur image. On parle de, même encore là, les S3, les buckets S3 qui ont été largement connus. Maintenant, c'est très difficile d'ouvrir un bucket S3 public. Et en ça, Amazon dit, c'est pas mon problème. Moi, j'ai mis toutes les mesures en place pour faire que l'utilisateur ne se fasse pas mal. S'il se fait mal, il y a des limites à ce que je peux faire. Puis la dernière limite, je vais couper son compte parce qu'il vient nuire à mon oui. service. Et à mes règles d'utilisation. C'est pour ça que les malveillants ne peuvent pas utiliser longtemps non plus les infrastructures informatiques parce que quand ils se font attraper, ils se font fermer tout de suite parce que les fournisseurs ne les veulent pas chez eux parce que ça nuit à leur business, ça nuit aussi à leur image. Puis généralement, ils se reçoivent des pressions des forces policières ou de gouvernementales pour dire là, arrête.
Ok, super. Juste une petite anecdote sur mutualisation des moyens. Il y a quelques années de ça, il y a une bonne dizaine d'années de ça, je travaillais chez un client et on faisait de la reprise informatique le week-end. Ça remonte à 15 ans. Et en fait, quand on faisait de la reprise informatique, on utilisait les machines qui nous mettaient à disposition. Et normalement, les machines qui sont mises à disposition sont flushées, sont nettoyées, etc. Et là, on est tombé sur les machines où toutes les bases de données du précédent client se trouvaient. C'est une grosse banque, je dirais pas laquelle. Et en fait, on avait accès à toutes les données du client précédent. Donc, attention, soyez très attentifs justement sur ce genre de choses-là. Donc, le fournisseur, normalement, doit garantir un certain nombre de choses, mais c'est pas pour autant qu'il fait payer son travail.
Ouais, il faut faire attention. Puis justement, cet incident-là, maintenant, c'est un incident de confidentialité. Là, ça ferait très mal maintenant parce que les lois ont changé. Et heureusement, les lois ont changé justement pour... sévir de façon importante dans des situations comme ça, j'aurais peut-être pas de négligence, mais d'oubli chez certains fournisseurs.
Mais c'était un bon moment. On a eu tapis rouge, café, resto, etc. Tout ça au frais du fournisseur. C'était un bon moment. Il était pas bien à l'aise dans ses baskets, mais nous, on était vraiment très, très bien lotés. Allez, étape suivante. L'informatique en nuage est moins chère que les solutions en infrastructure traditionnelle. Donc là, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais quand on a une infrastructure traditionnelle versus une infrastructure infonuagique, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus?
C'est toujours dans le cas, puis de l'effet de mutualisation. Puis c'est un peu la réflexion qui est vraiment basée là-dessus. Puis je veux dire, sur site, puis il y a des mouvements aux États-Unis, bon, que je vois principalement aux États-Unis, mais que j'imagine qu'ils vont se mondialiser, où les gens reviennent sur site parce que, un, pour des raisons d'économie, pour des raisons de sécurité aussi également. Et dans certains services, ce n'est juste pas rentable de le faire en info nuagique parce que les coûts sont exorbitants parce qu'ils ne sont pas faits pour supporter ce type de service-là. Ils n'ont pas adapté à ça parce que généralement, bon, on a des spécificités qui sont très particulières dans certains types de traitements. Donc, c'est de le réfléchir vraiment sur ça. Puis, tu sais, on pourrait dire même à la limite d'ordinateur central ou c'est ce genre d'éléments-là qui sont peut-être plus difficiles. Puis, c'est pas nécessaire de vouloir se débarrasser de l'ordinateur central non plus. Puis, j'ai vu des mouvements chez plusieurs organisations, généralement gouvernementales, mais certaines grandes compagnies aussi qui avaient les moyens de se payer un ordinateur central. C'est peut-être pas nécessairement le bon chemin, surtout pour dire, ah ouais, on va aller en infonugique, on va se débarrasser du central. Non, parce que c'est pas la même réflexion, puis ça va risque de vous coûter probablement même plus cher que l'ordinateur central de migrer. Un, le coût de migration, puis ensuite le coût de maintenance de ces solutions-là, parce que l'ordinateur central a des avantages dans certains domaines très spécifiques qui ne sont pas encore égalés en infonugique à ce stade-ci. Donc, puis probablement qu'ils ne le sauront jamais parce que c'est pas des forces de calcul qui sont adaptées au type de traitement là, massif. Là. C'est, dans le fond, l'avantage principal de l'ordinateur central, c'est sa capacité d'opérer en batch des volumes immenses de données de façon rapide et efficace. On va parler dans des grandes banques, par exemple. On va parler des grands ministères qui ont les dossiers de tous les Canadiens, par exemple, qui doivent le traiter très rapidement, un très grand volume de données. C'est des endroits où l'info nuagique n'a aucun avantage, puis n'aura probablement jamais aucun avantage à opérer dans ces environnements-là. Ça, c'est un leurre que je trouve un peu dommage parce que c'est tout des avantages, mais sinon, c'est faire très attention, faire surveiller, faire des modélisations de coûts, mutualisation. C'est ça la clé. Ce qu'on a fait dans nos data centers avec VMware, entre autres, cette hyper mutualisation de nos infrastructures, mais l'info nuagique, c'est l'étape suivante. Il faut en mutualiser encore plus. Il faut encore plus que nos ressources soient modulaires et capables d'être à la demande et justement de suivre la fluctuation et non de juste laisser la machine ouverte au cas où qu'il y arrive quelque chose.
Ouais. Donc attention là-dessus, hein, c'est pas forcément moins cher. Hein. C'est vraiment quelque chose à regarder par rapport à ça, faire un pour et un contre. Et je suis complètement d'accord avec toi sur tout ce qui est ordinateur central. Là, il y a vraiment une réflexion à avoir parce qu'il y a, à mon avis, pas forcément d'intérêt et ça peut en effet coûter beaucoup plus cher. Allez, l'autre croyance, l'informatique en nuage permet une scalabilité, une évolutivité plus facile et plus rapide. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
Quand on est cloud native, probablement oui. Quand on ne l'est pas, non, absolument pas. Fait que ça vient pas comme une solution magique parce qu'on a mis nos infrastructures en info nuagique que là, on a une capacité de croissance infinie. Et même à certains égards, les grands fournisseurs info nuagiques ont connu au début du confinement des difficultés à scaler de leur côté où on a eu des ralentissements significatifs sur les outils parce que les autres sont arrivés avec un contexte où du jour au lendemain, on a eu des millions de personnes qui ont commencé à consommer leurs services. Donc, il y a quand même des limites à ce que même les fournisseurs sont capables de faire, mais sont capables quand même de scaler assez bien. Chacun a leur force aussi. Il faut connaître les capacités de scaling de chacun des fournisseurs. Certains vont en avoir dans certains domaines très spécifiques, vont scaler très rapidement. Dans d'autres, ne scaleront pas bien ou plus lentement, tout dépendant du type de service qu'on consomme. Fait qu'il faut vraiment être familier avec le type de fournisseur qu'on prend, justement pour qu'il s'adapte à notre besoin de croissance et de comment on le fait. Et ensuite, ben là, c'est d'aller vraiment dans des consommations, soit des services qui sont du fournisseur de cloud native, c'est-à-dire du stockage fourni par le fournisseur directement qui est géré par lui, qu'on ne gère pas. S3 est un exemple de ça chez Amazon, c'est qui est probablement le plus connu. Mais il y en a chez les deux autres fournisseurs, les deux plus gros fournisseurs aussi, quand on est vraiment dans les environnements gérés. C'est un avantage des plus gros, puis les plus gros fournisseurs ont des services comme ça déjà pré-gérés qui scalent bien. Mais quand on descend, puis là, c'est de plus en plus vers nous, là, on va tomber dans des contextes avec Kubernetes, par exemple, qui est notre façon de virtualiser des applications. C'est à notre responsabilité le scaling, donc on doit le prévoir. Oui, le système le permet facilement, le permet d'orchestrer ça facilement. mais il faut le prévoir. Et il y a des coûts associés au scaling aussi. Il faut être très prudent. Puis justement, c'est une des règles de scale. Quand on se déploie en Kubernetes, entre autres, on donne le nombre minimum et maximum de pods. Fait que quand la croissance augmente, bien, il va augmenter son nombre, mais jusqu'à la limite qu'on va y imposer, justement pour que ça devienne infini. Parce que si ça devient infini, la consommation, là, on devient en déni de service financier. Ce qui existe des attaques, là, des petits joueurs vont s'attaquer sur ce genre de choses-là, vont générer des charges financières chez leurs concurrents, justement pour leur mieux. Fait qu'il faut être très prudent à ce genre de situation-là. Donc, de mettre en place des services qui scalent bien à des prix raisonnables pour ce qu'on a de besoin. Puis plus on descend en IaaS, ben là, il n'y a pas de scaling possible. On est pris dans les infrastructures qui ont les mêmes limites que des infrastructures physiques qu'on a dans nos data centers. Donc, on n'est pas capable d'aller en croissance. Fait qu'il faut vraiment choisir le bon service qui s'adapte à notre besoin. Puis il faut le planifier, ces besoins-là aussi. Puis on revient aussi tout le volet de les coûts de ces éléments-là. Ben, faut réfléchir. Info nuagique ou le service qu'on veut va être capable de scaler à notre besoin et au coût qu'on est capable de tolérer aussi à ce moment-là. Il y a beaucoup d'angles à prendre de ce côté-là. Puis ensuite, ben, de le faire en multi-géo ou des éléments comme ça, mais encore là, c'est des réflexions. Il y a d'autres services aussi, il faudrait réfléchir. Si on offre une prestation, disons plus web, d'avoir des CDN devant, comme un Cloudflare, par exemple. Les fournisseurs info nuagiques en ont, mais Cloudflare est connu publiquement ou Akamai, entre autres, qui sont spécialisés dans ce genre de service-là ou qui vont permettre de justement d'accepter la charge qui est mise sur le site sans que ça vienne nous toucher et même à peu de frais aussi à certains égards, ces services-là vont l'offrir. Il y en a chez les fournisseurs. Si on va prendre un fournisseur mature en termes cloud native comme Google, eux vont avoir l'avantage de mettre même des mesures en amont. Fait que là, on tombe dans des contextes d'architecture très précis où eux autres ont des couches, puis c'est très intéressant qu'on commence à s'intéresser à regarder en profondeur ces éléments-là où ils ont des services qu'ils appellent Edge qui sont plus ou moins disponibles chez les autres fournisseurs. C'est-à-dire que on n'atteint pas le gros data center tout de suite. Donc, les services qui sont dans de plus petits data centers, qui sont plus proches, coûtent moins cher, ont moins de capacité, mais vont tolérer justement le scaling. Ils vont scaler vers le grand data center au besoin. Fait qu'il y a plein de réflexions comme ça à avoir, mais il faut s'assurer qu'on est capable aussi, puis en temps de scaling, de déni de service, parce que c'est pas anodin, puis ça existe. Puis bref, on a pas le déni de service financier, déni de service technologique aussi, de surcharge. Faut s'assurer que notre scaling le supporte, faut s'assurer que nos services le supportent, puis justement qu'on design les systèmes. Et nos vieux systèmes, par magie, ne scaleront pas parce qu'on les a déplacés en info nuagique.
La magie de la croyance. OK, hey, c'est vraiment cette partie-là. Là, c'est donc oui, clairement, mais ça dépend quand même de ce qu'on met dedans. Et puis, il ne faut pas croire que ça va forcément scaler comme ça parce qu'on a décidé que ça scalait comme ça. Il y a quand même du travail derrière. Et puis, on revient toujours sur cette notion de coût vis-à-vis de ça. Allez, il nous en reste deux dernières, pas des moindres. L'informatique en nuage améliore la flexibilité et la mobilité des utilisateurs. T'en penses quoi, toi?
On a une belle expérience. Dans la mesure où on prend des services gérés. O365 est un très bel exemple de ça, qui a effectivement mis dans les mains des utilisateurs lors du confinement cette capacité-là. Google Workspace aussi est l'exemple là, du compétiteur, parce qu'il y a Microsoft n'est pas tout seul dans cet environnement-là, ont permis justement ces éléments-là facilement de croître rapidement, de permettre aux utilisateurs de travailler de la maison, de se débarrasser d'une partie d'infrastructure, de mettre justement la mobilité et ces éléments-là qui sont associés. Oui, parce que les centres de données sont plus basés dans un centre de données fermé ou pour un VPN, puis tu avais des structures beaucoup plus lourdes pour accéder. Puis même, il existe certains services qui, entre autres, ont été mis de l'avant par Cloudflare au début du confinement, qui est maintenant disponible par beaucoup d'autres aussi, comme Zscaler, je crois, où on vient faire un faux VPN, c'est-à-dire qu'on rajoute la mobilité, c'est qu'on consomme le service à travers Zscaler qui revient vers notre data center. On se débarrasse du VPN dans la consommation des services, tout en ayant une couche de sécurité très importante et très intéressante, de type Zero Trust qui est associé avec ce genre de service. Fait que oui, L'info nuagique va énormément améliorer la mobilité des applications modernes, des applications qui ont été mises en cloud ou qui ont émis des structures qui ont simulé qu'est-ce que le cloud peut faire. Et aussi, il s'agit de penser comment Google a réfléchi toute son infrastructure avec BeyondTrust, entre autres, qui permet essentiellement à tous ses employés de travailler de n'importe où dans le monde. Donc, eux-mêmes mangent leur propre concept. Donc, eux autres ont même mis ça de l'avant. Fait que oui, ça l'améliore énormément. Les applications patrimoniales, probablement pas, parce que eux ne sont pas adaptés, mais toutes les applications modernes et encore mieux les cloud natives sont capables d'améliorer ce genre d'éléments-là où on consomme, peu importe où sur la planète, des services. Justement, c'est tout le beau du confinement nous a amené cette capacité-là maintenant à travailler de façon nomade davantage. Puis là, c'est rendu dans la conscience des gens, cet aspect nomade-là. Certains l'ont poussé à l'extrême à vendre leur maison puis à s'acheter un VR, par exemple, ou à s'acheter un petit Winnebago. Puis ils partent comme ça sur la route à l'année et ils travaillent dans différents paysages à chaque moment de l'année où ils peuvent vivre dans des campings, dans des zones sauvages, ou ainsi de suite. Puis même avec l'effet de Starlink, entre autres, avec la capacité Internet à pas trop haute latence satellitaire, donc d'être capable de travailler à peu près n'importe où dans le monde avec des capacités qui sont très accessibles. Fait que oui, ça l'amène ces choses-là. Et je suis excessivement enthousiaste parce que ça fait des années que je pousse mes clients à avancer vers là. Ça fait des années que c'est disponible, mais ça a pris du temps avec les organisations qui commencent à adhérer à ce volet nomade-là. Là, pendant ça, il faut s'assurer que la sécurité soit équivalente. Là, les organisations sont pas encore toutes prêtes là. Ils ont commencé à adapter leur structure. Il y a une réflexion de sécurité très importante associée à ce genre de choses-là parce qu'on est plus propice à perdre nos équipements quand on n'est pas dans un bureau fixe. Donc, de s'assurer en mobilité, tous ces éléments-là sont bien pris en charge, qu'on a bien réfléchi, qu'on ne perdra pas l'information sensible, que ça ne donnera pas de l'information accessible à n'importe qui puis de sensibiliser. Mais il y a des avantages énormes. Puis moi, je suis très enthousiaste face à ce volet-là.
Ouais, moi aussi, je suis très, très enthousiaste. C'est pour ça que je trouve que tout ce qui est info nuagique, ça a un côté vraiment très, très pratique, très sympathique par rapport à ça. Sur cette mobilité, la flexibilité, etc., ça change aussi la façon de travailler. On va le voir avec le point suivant. Ça change la façon de travailler à travers le monde. Si tu veux partir en vacances dans le sud pendant tes semaines de travail, ça pose pas de problème. Tu vas dans le sud et puis tu vas à la piscine et tu peux faire tes conférences téléphoniques à côté de la piscine, pourquoi pas? Bon, faut pas exagérer quand même, mais ceci dit, t'as vraiment une flexibilité et ça, je trouve que c'est vraiment le plus de cette partie info nuagique. Allez, on va finir avec la dernière question. L'informatique, donc la cloud, facilite la collaboration et la communication entre les utilisateurs. Qu'est-ce que tu en penses, Nicolas Mick?
Ben, pour poursuivre le point précédent, oui, puisque maintenant, on est capable de collaborer de façon délocalisée, entre autres. Moi, je travaille pour les gens locaux, on l'a vu pendant le confinement, effectivement, l'info numérique nous a permis rapidement une collaboration, même si on n'était plus capable d'être dans des lieux physiques communs, considérant les risques d'infection qu'il y avait à ce moment-là. Donc, ça nous a amené dans cette circonstance-là. Ça l'a ouvert, justement, à ce que je mentionnais précédemment, à cette capacité nomade. Moi, ça a ouvert ma capacité de collaborer avec des gens à travers le monde davantage, justement, beaucoup plus facilement que ça l'était précédemment. Avant, c'était un peu plus compliqué. Les outils étaient un peu plus méconnus par la plupart des utilisateurs. Maintenant, on est dans un contexte où tout le monde connaît un des outils de collaboration en ligne, Teams, Meet, Zoom, par exemple, pour nommer les plus importants, qui sont largement utilisés. Donc, on est tous dans cet univers-là. Le podcast est un bel exemple de collaboration à distance parce que la majorité de mes enregistrements se font tous à distance, que ce soit dans la même ville ou même jusque à travers le monde où j'ai des enregistrements où je fais avec des gens ailleurs, principalement en Europe, mais quand même, ce qui me permet cette collaboration-là qui n'était pas facile d'exécution avant, où les outils étaient plus difficiles de manipulation et beaucoup moins intuitifs qu'ils sont maintenant. Il y a eu une accélération de cette capacité collaborative-là qui a été mise de l'avant par le confinement et incidemment, ben là, les gens l'ont adopté et ça a forcé les fournisseurs à adopter leur structure et leurs outils pour que ça soit de plus en plus facile que l'usage soit de moins en moins irritant. Puis d'ailleurs, ils veulent qu'on utilise leurs services. Ils se chamaillent tous un peu pour avoir leur plateforme de collaboration qui soit la plus forte. Les deux plus gros joueurs en termes de vraiment collab, c'est vraiment Microsoft et Google qui ont des plateformes équivalentes en termes d'intégration et de collaboration. Fait que c'est très intéressant. Il y a Zoom qui est un troisième joueur qui essaie d'émerger, mais lui est plus au niveau de la visio pure et dure, qui est en train de migrer vers ce genre d'élément. Fait qu'il y a un intérêt très grand à ce type d'environnement-là où on est capable de collaborer justement parce qu'on n'a plus la charge. Et pour ceux qui ont fait l'effort de déployer Skype en entreprise, par exemple, c'est une douleur très, très grande. C'est très compliqué. C'est généralement pas super stable non plus d'ailleurs. Ça crée des soucis puis ça a beaucoup de complexité. Quand on arrive avec un Teams, qui est l'équivalent essentiellement, c'est facile, on appuie sur le bouton, ça fonctionne, n'importe qui peut le faire, vraiment n'importe qui. Même Microsoft l'a même étendu dans des comptes personnels maintenant, ce qui fait que ils ont fait l'inverse. En fond, ils sont en train de remplacer Skype par Teams, mais ça existait Skype avant aussi. Il existe encore un peu sous certaines formes. Dans le cas de Google, on avait Hangout, Meet et tous ces produits-là qui sont largement utilisés aussi. Ça fait longtemps qu'on a en œuvre, mais qui sont d'autant plus connus par les gens qui veulent faire ce genre de choses-là. Puis ceux qui sont dans Workspace, bien, il y a des éléments de collaboration qui sont très intéressants. Dans les deux, tu sais, il y a des tableaux blancs, il y a votre documentaire et ainsi de suite qui sont inclus. Ça fait que oui, ça favorise ce genre d'éléments-là. Et la diversité a explosé. C'est heureux comme ça parce qu'on permet justement d'ouvrir les frontières numériques pour la collaboration, tout en maintenant une certaine souveraineté à travers tout ça.
Moi, je vais rebondir sur ce que tu dis, sur la capacité de pouvoir travailler sur des équipes mondiales. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de fabuleux pour ça. Ça ouvre des horizons énormes de collaboration inter-pays, inter-monde. Et parfois, peut-être interplanétaire quand on sera rendu là. Mais n'empêche que ce côté-là, vraiment, de communication à travers la planète, c'est vraiment, moi, je trouve ça vraiment fabuleux, ce côté collaboratif. Je travaille beaucoup aussi avec l'Europe et je trouve que c'est vraiment facilitant. Et ce que tu disais tout à l'heure, la facilité de mettre ça en place, c'est ça. Appuyer sur un bouton, ça fonctionne. Après, on a chacun nos préférences par rapport aux fournisseurs, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Voilà pour toutes les questions. Pour moi, j'ai fait le tour des questions, donc je crois que toutes les personnes qui écoutent ton podcast sont maintenant bien au courant et elles ne pourront pas dire « je ne savais pas ». Vous le savez maintenant si vous avez écouté jusqu'à là. Nicolas, je te laisse le mot de la fin.
Oui, le mot de la fin, c'est « assurez-vous de bien connaître la frontière entre vos responsabilités, les responsabilités du fournisseur infonuagique ou du service que vous consommez. » Ça, c'est la clé, c'est le point de démarrage. Et le tout s'appuie là-dessus, puis ensuite, le restant va grandir puis avoir une expérience heureuse en infonuagique dès que vous maîtrisez ce volet-là. Merci énormément.